Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un monde qui change, mutations technologiques, paysages qui évoluent et transformations qui concernent y compris la cellule de base de chaque société, la famille. Des modifications qui, dans certaines régions du monde particulièrement, bouleversent les rôles, les rapports de force, remettent en question des modèles, des schémas sur lesquels on s'appuyait depuis des générations pour prendre des décisions, exercer l'autorité et transmettre les savoirs. Être parent aujourd'hui, ce n'est pas exercer cette fonction éducative dans les mêmes termes que la génération précédente, veiller ou surveiller, élever ou éduquer, soigner ou protéger, dans des contextes où les risques semblent s'être multipliés. Mais qu'en est-il vraiment? Comment interpréter cette anxiété, cette volonté de réussir, appliquée y compris à l'intimité familiale, autorité, permissivité? Comment trouver le bon équilibre? Comment tracer son propre chemin de parent? En apprenant des grands-parents, mais sans forcément reprendre tous leurs conseils à son compte. Si vous avez des questions, des témoignages sur votre rôle de parent, et bien sûr, toutes ces interrogations, on les attend au 33 84 22 75 75. Être parent aujourd'hui en Afrique, c'est le titre ce trimestre de votre Santé Magazine, magazine panafricain d'information sur la santé. C'est notre partenaire pour cette émission. Et avec nous, en studio, Béatrice Copper-Royer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne. Tout à l'heure, nous allons être en ligne avec le professeur Ousmane Diaye, pédiatre, co-responsable du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant à Dakar. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Amadou Galodia, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, directeur scientifique de Votre Santé Magazine, notre partenaire aujourd'hui pour cette émission. Alors gros titre de votre revue ce trimestre, être parent aujourd'hui en Afrique, pourquoi ce choix ?
Parce qu'on a constaté que l'encadrement traditionnel qui aidait la jeune fille, le jeune garçon marié à savoir prendre en charge une famille au sein d'une grande concession où il y avait plusieurs familles et une auto-éducation, une auto-régulation, mais est en train de complètement disparaître. Alors les jeunes africaines et les jeunes africains ne savent plus faire. Ils savent plus quelles sont les techniques qu'il faut pour déjà gérer le bébé qui vient de naître. Ils n'ont plus de repères éducationnels. Ils vont le chercher sur le net avec des repères qui sont absolument extra-culturels.
Inadaptés.
Inadaptés, et c'est tout cela. Mais donc ça va être un peu de médecine, mais beaucoup de psycho, beaucoup de sociaux et beaucoup de recommandations pour mieux prendre en charge cet être en devenir dès les plus jeunes âges et l'aider à avoir les meilleures armes pour affronter sa future vie.
Alors tous ces conseils pertinents, on va justement les retrouver tout de suite avec les invités de Priorité Santé. Merci beaucoup à vous, professeur Amadou Galodiop. Alors en studio, Béatrice Copper-Royer, quel regard justement sur tous ces changements dans ces relations parents-enfants? Est-ce que vous diriez que les préoccupations actuelles des parents, ou que l'on se trouve d'ailleurs dans le monde, est-ce que ces préoccupations ont changé si on regarde 10, 20 ans en arrière?
Oui, je pense qu'il y a plus d'anxiété autour de l'éducation des enfants, parce que ce qui a beaucoup changé, c'est le mythe de la perfection et de la performance. Les parents ont peu d'enfants, ils choisissent le moment où ils vont les avoir, et donc il y a un mythe de l'enfant idéal qu'on va rendre parfaitement heureux et qui va vous rendre parfaitement heureux, qui est très très fort. Et du coup, évidemment, l'enfant en chair et en os dans sa réalité, il apporte des déceptions et il les met parfois en difficulté. Et là, il y a un certain désarroi.
Et cette incompréhension, elle se traduit comment? Y compris par des parents qui ont cette démarche de venir en consultation en disant « je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas ».
Justement, ils viennent en consultation parce que ils savent pas très bien par quel bout prendre les choses. Je vois par exemple pas mal de parents qui sont confrontés aux crises de colère, si je puis dire, de l'enfant de 3 ans et demi, 4 ans et demi. On sait bien que c'est le moment de la toute-puissance infantile, que ces enfants-là ont des espèces, ont un imaginaire tout-puissant qui leur fait croire que tout est possible, et la réalité les déçoit très souvent. Donc il y a beaucoup de frustration, donc il y a de la colère. C'est absolument pas pathologique à ce moment-là, mais c'est vrai que les parents sont tout à fait décontenancés et veulent toujours, tout de suite, rationaliser, donner des explications, savoir pourquoi, alors qu'en réalité, à ce moment-là, il y a juste à un peu à débrancher la prise, à essayer de faire diversion en branchant l'enfant sur un imaginaire puissant. Et ça passe. Donc c'est sur des petites choses comme ça qu'on voit que il manque un peu de repères.
Et aussi peut-être cette impression pour certains parents de faire tout au mieux et de ne pas comprendre qu'en échange, eh bien l'enfant lui ne soit pas capable de faire tout au mieux.
Voilà, effectivement, peut-être que le besoin de reconnaissance et de gratitude est un peu fort chez ses parents et il risque d'être assez déçu parce que l'adolescence s'amorçant là-dessus, ça va peut-être pas la gratitude va pas être au rendez-vous tout de suite.
Est-ce que vous diriez pour autant, Béatrice Copper-Royer, qu'il y a une forme d'insécurité dans la société, insécurité par rapport à l'emploi, à la situation sociale, par rapport aussi à des situations de crispation dans l'actualité qui peuvent aussi se ressentir dans une forme d'insécurité dans la façon d'élever les enfants?
Je crois qu'il y a une prise de conscience, enfin, il y a une conscience assez aiguë que la société n'est pas très facile, que tout va très vite, que je vous disais, l'idée de performance est quand même très, 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 très présente, puisqu'on voit des enfants dès la maternelle qui sont confrontés à des angoisses scolaires importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même énormément augmenté. Et les parents, effectivement, sont arrimés à l'idée qu'il faut que leurs enfants réussissent à tout prix et le plus tôt possible.
Et même dans des expressions, avant on disait par exemple « pouponner ». Aujourd'hui, dès que le bébé a quelques mois, on lui présente des livres, des stimulations intellectuelles, etc. Est-ce que on laisse finalement au tout petit le droit d'être encore un tout petit ?
Mais écoutez, j'espère qu'on les pouponne encore suffisamment, que l'école maternelle, qui est par exemple en France obligatoire à 3 ans maintenant, va quand même rester, on va encore garder du maternel, et notamment l'idée de jouer, de d'échanger, mais dans la détente et dans le jeu. J'espère qu'on va pas oublier tout ça, mais l'idée que les enfants devraient être précoces tout le temps est quand même très présente.
Et aussi relativement problématique.
Et relativement.
Un culte de la performance très très précoce.
Ben forcément, parce que ça met de la pression et les enfants sont confrontés à des attentes parfois un peu surdimensionnées, ce qui effectivement est source pour eux d'insécurité et d'anxiété.
On vous retrouve en ligne de Dakar, professeur Ousmane Diaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre co-responsable du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. Alors, une impression générale hein, pour commencer cet échange. Est-ce que les parents d'aujourd'hui, ceux que vous rencontrez, vous semblent avoir perdu, comme on le disait à l'instant, en sérénité? Est-ce qu'ils sont plus préoccupés, on va dire, plus inquiets que la génération précédente?
Ben, tout à fait. Hein. La famille actuelle, les parents actuels qu'on rencontre dans nos structures hospitalières et dans notre pratique quotidienne sont des parents très anxieux. Puisque, en réalité, ils sont passés d'un modèle communautaire de prise en charge de la famille et des enfants à un modèle très individualiste, de telle sorte que, devant une situation donnée, ils sont laissés à eux-mêmes. Quand on est en consultation, ce qu'on observe le plus, c'est soit les deux parents qui viennent, et ou bien c'est une mère ou bien un père qui vient avec son enfant. Alors que traditionnellement, l'enfant était entouré et accompagné par toute la famille. Donc c'est le modèle communautaire de solidarité, mais aujourd'hui ce modèle a disparu et on observe de plus en plus un désinvestissement émotionnel des familles envers les enfants et envers la famille globalement, et des enfants de plus en plus abandonnés à eux-mêmes. Et je pense que ça c'est inquiétant et c'est une source de stress pour les parents.
Mais justement, ces parents qui viennent vous voir en consultation, ils montrent qu'ils n'ont pas abandonné leurs enfants, professeur Ndiaye. Ils vous disent quoi? Ils sont inquiets? Pourquoi? Dans les messages qu'on a reçus des auditeurs, on voit beaucoup le terme de limite de poser. Apparemment, c'est quelque chose qui préoccupe énormément les parents, savoir quand on va justement vers le contrôle, vers l'autorité, ou quand on laisse faire, comme on dit. Est-ce qu'il y a aussi ces préoccupations qui vous sont rapportées par les parents qui viennent vous voir?
Oui, bon, quand vous parlez de limites, je pense qu'effectivement, il y a tous ces problèmes qui sont assez complexes qu'on rencontre. Hein. Quand vous voyez limite, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire limite dans la prise de décision. C'est tout à fait possible, hein, parce qu'en réalité, le gros souci, c'est la prise de décision au sein du couple. La décision, souvent, pour la prise en charge de l'enfant, est soit prise par le père ou pour la mère, mais quand il y a un déséquilibre social, économique, par un père qui est moins présent, moins contributif, ça pose des problèmes en termes de limites dans la prise de décision. L'autre limite, mais c'est effectivement cette limite qui est liée aux possibilités socio-économiques. Quand ils viennent le plus souvent, c'est un souci. C'est des patients, c'est des parents qui viennent, qui ont nos limites parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce que l'un des parents a des limites sur le plan économique et qui ne puissent pas prendre en charge correctement les parents. Et enfin, la plupart de ces patients qu'on voit se sentent abandonnés par les autres. Parce qu'ils vous disent souvent, bon, quand on a besoin de nous, on nous sollicite tout le temps. Mais quand on a besoin des autres, surtout le social, l'entourage, on a l'impression d'être abandonné. Et ça, c'est une limite sociale et qui n'existait pas dans les sociétés traditionnelles où l'enfant était pris en charge par tout le monde. La maladie de l'enfant concernait la société, concernait la communauté. C'est pourquoi je disais qu'il y a une disparition du modèle communautaire, du modèle de solidarité. Mmh. Et c'est une limite extrêmement importante dans nos pays actuellement et qu'on observe avec vraiment beaucoup de désarroi dans notre consultation quotidienne.
L'effritement de la solidarité. Alors, cette volonté des parents, malgré tout, hein, malgré les difficultés, voir les enfants réussir, on peut le rapprocher dans une certaine mesure de la capacité à décider de la taille de la famille, moins d'enfants, on va dire mieux d'enfants, par le biais, bien sûr, de l'accès à la contraception. Ça fait partie des changements majeurs hein, connus par les générations actuelles. Alors, tout de suite, ce reportage qu'on va entendre, dans le centre du Togo, à Kara, Charlie Dupio s'est rendu dans le CHU de la ville, le grand hôpital, et la sage-femme Marthe Aoulimi profite d'une séance de vaccination pour donner des conseils en matière de contraception. Autour d'elle, une vingtaine de femmes, la plupart ont des bébés sur les genoux et elles écoutent attentivement.
Donc c'est ça qu'on appelle la planification familiale, pour que les grossesses ne vous surprennent pas. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, vous allez les poser et ensemble, nous allons trouver des solutions. Vous êtes intéressée?
Oui. S'il vous plaît, madame.
Vous avez parlé des comprimés, les pilules qu'on prend. J'aimerais savoir si tu rates de prendre le comprimé et tu fais les rapports, tu peux tomber enceinte.
Tu vas tomber enceinte, il ne faut pas rater. C'est pour ça qu'on dit de chronométrer votre appareil. Vous savez qu'à telle heure, vous devez prendre. C'est bon? Ok. Je vous remercie.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Vous êtes une des mamans qui avait suivi la formation là, sur le planning familial organisée par les sages-femmes de ce CHU de Kara. Comment vous vous appelez?
Je me nomme Adjam Florence. J'ai 29 ans. Je suis mère d'un enfant. C'est une fille. Elle a 2 ans, 3 mois.
Comment elle s'appelle?
Hermine.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie alors?
Je suis commerçante. Je suis dans ma boutique. J'ai ouvert un supermarché que je gère moi-même.
Vous posiez beaucoup de questions pendant cette formation sur les questions de la contraception?
J'ai posé des questions pour ne pas tomber enceinte. Moi, je veux que ma fille fasse 4 ans. Avant que je tombe encore enceinte, c'est pour cela que je posais la question pour me tenir.
Combien vous voulez d'enfants alors?
Je vais avoir 3 enfants. Parce que c'est difficile. C'est ce que j'ai planifié avec mon mari.
Vous en avez parlé avec votre mari?
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait comme travail?
C'est un entrepreneur. Il faut l'argent pour pouvoir supporter les enfants. Dans la scolarité, il coûte cher. Après, quand l'enfant le bac, il va te dire de faire ceci. Si tu n'as pas les moyens pour l'envoyer dans une école, c'est un problème. Faire les études, c'est un problème. c'est difficile d'avoir beaucoup d'enfants.
Et comment vous le vivez ça, le fait de renoncer, si c'est un renoncement, je ne sais pas, à avoir plus d'enfants?
C'est difficile. Parce que chez nous en Afrique, ici, avoir beaucoup d'enfants, c'est bon. Mais c'est leur éducation qui compte. Faire d'enfants, ce n'est pas un problème, mais c'est s'occuper d'eux qui est problème. Il y a des familles, ils n'arrivent pas à donner à manger aux enfants. C'est difficile, parfois c'est une fois dans la journée où il faut bien se nourrir. C'est des petits enfants, ils doivent bien manger. La famille, pour le moment, ils ne sont pas au courant. C'est nous qui faisons nos enfants, parce que c'est nous qui allons s'occuper de leur éducation. Donc, c'est entre mon mari et moi, ce qu'on peut faire. Et ils n'ont rien à dire.
C'est l'avenir de vos enfants et vous aimeriez qu'ils fassent quoi comme études vos enfants?
J'aimerais moins un étudie la médecine pour aller loin. L'autre, un avocat. Le troisième, un serviteur de Dieu, un prêtre, un pasteur, quoi. Quelque chose.
Ça, c'est dans votre monde idéal. En tout cas, l'idée, c'est que tous les trois fassent des grandes études.
Au moins pour pouvoir se défendre eux aussi dans l'avenir.
Reportage à Karao Togo avec Charlie Dupiot, ce contrôle des naissances, des parents responsables parce qu'ils ont envie de voir leurs enfants aller loin. C'est fondamental dans la définition aujourd'hui des rôles dans la famille, justement, Béatrice Copper-Royer, de choisir la taille de cette famille.
Bien sûr. C'est contemporain en France, en Europe, c'est déjà un peu ancien, hein. La contraception, ça a quand même déjà quoi 40 ans, non, je sais plus quand.
De la génération précédente.
Ah, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que ça a considérablement changé le regard qu'on a posé sur l'enfant, qui est devenu une vraie personne, et ça c'est tout à fait heureux parce que on ne considère plus comme dans les générations autrefois comme un objet qu'on avait à disposition. Donc ça c'est très très heureux, mais c'est vrai que en contrepartie il y a une attention sur lui qui est parfois très très importante et qui prend même parfois toute la place sur le couple, hein. Les enfants peuvent prendre une place démesurée et du coup le couple se perd un peu de vue aussi.
Alors votre réaction aussi, professeur Ousmane Diaye, enfant choisi, enfant désiré. Là, on est sur la transition démographique, ce choix de la taille de la famille. C'est évident que là aussi, ça va compter dans la manière de façonner, de modifier le lien parental.
Oui, tout à fait. Hein. Je pense que c'est extrêmement important, la taille de la famille. Mais je reviens rapidement sur la planification familiale. Là. Mm-hmm. C'est extrêmement important, qui permet de lutter contre les grossesses trop fréquentes, trop précoces, trop rapprochés et trop tardifs, qui sont des sources de mortalité maternelle et de morbidité, avec un investissement économique très important. Maintenant, la taille de la famille est importante. Plus elle est petite, plus on a du temps pour investir, on a du temps pour s'investir émotionnellement sur les enfants. Et c'est important pour l'éducation. C'est important également pour la prise en charge de leur avenir. Puisque moins on a d'enfants, mieux on investit sur les études. Et je pense que c'est extrêmement important et c'est un facteur de développement. Tant et si bien que dans nos pays, la planification familiale est repositionnée de façon très, 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 très forte dans les programmes, les stratégies pour la survie de l'enfant et de la mère aussi.
C'est important de le dire, toutes ces implications sanitaires de ce contrôle des naissances. On reste ensemble, là, puisqu'on donne tout de suite la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs est en ligne du Mali, de Bamako. C'est Chico qui est avec nous. Bonjour Chico.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, allez-y.
Voilà, et j'élève seule ma fille de 13 ans à Bamako. Mmh. Sa mère vit avec un autre en France. Mmh. Oui. Et quand la maman revient pour les vacances tous les 6 mois, Elle veut lui donner une éducation occidentale. Elle lui ramène des habits occidentaux et moi, je veux lui donner plutôt une éducation traditionnelle. Je ne veux pas forcément la forcer de s'habiller d'une certaine manière ou pas, mais c'est plutôt une préférence que j'ai. Et j'ai peur du regard extérieur des gens de mon entourage.
De votre famille notamment, Chico, vous avez peur de ce que va dire par exemple votre mère, votre père ou vos tantes?
Non, de l'entourage.
D'accord.
De l'entourage, oui, le regard extérieur. Et j'ai peur qu'elle se fasse embêter parce qu'il y a plus de personnes qui s'habillent de manière traditionnelle autour d'elle et peur de l'attitude des garçons aussi. Alors, quel impact cette double culture peut avoir sur elle quand elle va grandir?
Je vais tout de suite donner la parole à nos invités. Moi, j'ai juste une question à vous poser, Chico. Vous en avez parlé avec votre fille?
Oui, j'ai parlé avec elle, mais elle ne veut pas comprendre.
Mais elle ne veut pas comprendre quoi, en fait? Vous, d'un côté, vous aimeriez mieux qu'elle ait des vêtements traditionnels, des boubous, des djellabas, et sa maman, elle arrive avec des jeans, avec des petites jupes, c'est ça?
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle préfère porter quoi?
Elle préfère ses habits occidentaux.
Mmh. Et aucune de ses copines à l'école n'a d'habits occidentaux? Elles sont toutes en tenue traditionnelle?
Elles sont toutes en tenue traditionnelle.
Oui. Mais en même temps, oui. Ses copines, quand elles la voient arriver avec ses vêtements, elles trouvent ça comment? Elles lui font des compliments? Elles la trouvent jolie avec ses tenues?
Oui, c'est souvent ses copines l'envient aussi. Hein.
Mmh.
Oui.
Et vous, Chico, à la maison, il y a d'autres enfants ou il y a uniquement votre fille de 13 ans?
Non, il y a uniquement ma fille de 13 ans.
Il y a uniquement votre fille de 13 ans. Mm-hmm. Je vais donner la parole au professeur Ousmane Diaye, justement, sur cette... on sent que vous avez des questions, vous avez l'impression que votre fille est un petit peu écartelée entre ces deux cultures. Est-ce qu'elle doit choisir? Est-ce que vous devez choisir? Est-ce que sa maman doit choisir? Professeur Ndiaye, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que c'est assez classique comme situation, hein, qu'il y ait ce conflit entre la tradition et la modernité. Et je pense que le problème initial vient de la mère, peut-être qui a quitté un milieu traditionnel fondamentalement et qui est parti dans un milieu très contemporain où il a acquis des habitudes qu'on comprend maintenant, hein, vu l'environnement où elle est maintenant. Mais cependant, je pense que vouloir transposer ses habitudes moderne à un milieu traditionnel où le regard de l'autre est extrêmement pesant, me paraît extrêmement dangereux et ça peut poser des problèmes. C'est ce qu'on pourrait appeler vouloir changer sans pouvoir vraiment changer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est important aussi d'avoir l'avis de la fille et que les parents puissent discuter un peu sur ce qu'ils veulent pour leur fille et en tenant compte de l'opinion de leur fille et en tenant compte également de l'environnement où c'est la vie. Parce qu'en réalité, dans les villages, c'est la société, c'est l'environnement, c'est l'ethnie qui détermine un peu les orientations. Et je pense que la solution va découler de la discussion qu'il puisse y avoir entre les parents en tenant compte de l'opinion de cette fille qui a 13 ans, qui est vraiment adolescente et qui peut donner son avis sur cette question.
Je vais donner la parole à Béatrice Cooper-Royer. Juste, Chico, vous en parlez avec votre femme, parce que je vous ai posé la question pour votre fille. Est-ce que vous avez engagé une discussion avec votre femme à ce sujet?
Ma femme, j'ai pas compris. Ma femme, elle est avec moi ici à Bamako.
Mais la maman de votre fille, est-ce que vous avez parlé de la situation avec elle et des questions que vous vous posez justement sur ce choix d'être plutôt vers la modernité ou plutôt vers la tradition?
Bien sûr qu'on a parlé. On a parlé des heures et des heures, mais elle aussi. Et par exemple, elle veut l'inscrire dans une école française ici à Bamako. Moi, je veux qu'elle aille dans une école coranique pendant les vacances.
Donc, il y a vraiment une différence au niveau du choix,
oui,
de l'éducation et de la culture.
Oui, oui,
Béatrice,
oui, oui,
Cooper-Royer, qu'est-ce que vous pouvez dire à Chico?
C'est intéressant, mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant, c'est qu'il faut absolument expliquer à cet enfant qu'elle est prise dans une difficulté puisqu'elle est entre deux cultures, une culture traditionnelle et une culture occidentale, et que donc peut-être il y a c'est ni bien ni mieux ni pire, mais que peut-être elle a une nécessité à s'adapter à un environnement, que par exemple quand elle est en France, je sais pas si elle vient en France, mais peut voir sa mère, évidemment il est tout à fait naturel qu'elle s'habille comme ça, que quand elle est avec son père, peut-être que il y a une nécessité à s'adapter à cet environnement. Mais discuter avec elle quand même de savoir ce que ça lui fait, discuter avec elle de par exemple sur ce choix d'école, quelle est quand même aussi sa préférence, et ne pas tomber peut-être dans une impasse autoritaire qui à 13 ans a toutes les chances d'être très mal vécue.
Oui, ne pas se couper de votre fille.
Je pense qu'il faut lui
reconnaître
que c'est une difficulté pour elle d'être prise comme ça entre deux cultures très très différentes.
Chico, vous avez justement le sentiment que faire des choix à sa place, ça peut être compliqué après pour poursuivre le dialogue?
Bon, moi je crois qu'à cet âge-là, c'est aux parents de faire le choix. Hein.
Oui, mais quand les parents ne sont pas d'accord, alors comment on fait?
Bon, on la laisse décider à sa place alors.
Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution, mais professeur Ndiaye, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais je pense qu'il faut tenir compte du choix de cette fille. Mais je reviens sur l'école coranique, l'école française. Hein. Je pense que nous tous, on a vécu ça. Nos parents nous ont mis à l'école française la semaine et le week-end à l'école coranique. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu et vraiment, ça va satisfaire tout le monde. Mais concernant sa fille, je pense qu'il est important qu'on l'aide à décider, qu'on la laisse décider de ce qu'elle veut. Voilà.
Voilà.
Ça, c'est question. Voilà.
Lui donner la parole et puis après l'aiguiller en essayant de rétablir aussi la communication
et
entre les parents.
Que le père ne diabolise pas non plus, vous voyez, ces tenues occidentales qui, dans la tête de sa maman, n'ont rien d'extravagant.
Ni de provocateur. Elle trouve ça juste, elle a juste envie que sa petite fille soit jolie et sans aller plus loin.
Exactement.
Voilà, Chico, on vous souhaite une excellente journée au Mali. On va prendre un deuxième auditeur. Eh bien, c'est une femme, c'est Annie. Elle est en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Bonjour Anive.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Oui Caroline, je suis une mère de deux filles et mon souci majeur est de leur donner une bonne éducation. Les enfants étant un héritage, il me faut les former et les guider. Pour cela, je préfère les faire en premier avant qu'elles aillent écouter à l'extérieur, comme à l'école, avec ses amis, ou soit sur l'Internet. J'ai compris que le secret réside dans une bonne éducation. Parler avec l'enfant chaque jour, cela lui permettra de le mettre en confiance. Et j'essaie cela avec ma fille, et ça marche très bien. Et j'ajoute à une bonne communication, une bonne écoute aussi. Lorsque je parle à ma fille, nous sommes en train de communiquer avec elle. Elle aime souvent quand je l'écoute. Et lorsque quand elle me parle, j'ai mes oreilles d'ailleurs, elle se plaint beaucoup. Elle dit, maman, tu n'écoutes pas. Alors je fais beaucoup d'efforts pour que quand nous communiquons avec elle, elle puisse m'écouter.
Et à 12 ans, Annie, excusez-moi, vous arrivez à aborder différents sujets à partir de 12 ans, quand l'adolescence arrive pour une jeune fille, il y a des questions parfois un petit peu délicates. Vous arrivez à parler de tout, par exemple, du corps qui change, si elle commence à avoir des amis garçons autour d'elle, tout ce qui se passe?
Oui, je parle bien avec elle. Je vous l'ai dit, avec la communication de temps en temps, l'enfant se sentira en confiance. Ce que je fais avec elle, moi avec elle, il n'y a pas de tabou. Je parle de tout avec elle. Je lui explique que comme elle est devenue déjà adolescente, elle a 12 ans, tu vas voir dans ton corps certains changements. Et à cela, je n'ai pas de honte à lui expliquer.
Annie, est-ce que c'était pareil avec votre maman ou est-ce que c'est quelque chose que vous mettez justement en œuvre? Ça vous vient de vous ou ça vient de la génération d'avant?
Oh, effectivement, mes parents m'ont donné une bonne éducation. Vraiment, ils s'efforcent de me donner une bonne éducation et je les remercie. Hein? Ce que je veux ajouter à ma fille, à l'éducation que je veux donner à ma fille, que je ne dois pas être une femme, une mère qui est superficielle. Je veux être une mère qui entre en détail avec ma fille. Je ne veux pas que j'ai de la honte à expliquer ça ou ça à ma fille.
Mmh. On comprend bien Anive, Béatrice Cooper-Royer, ce qu'on entend, c'est l'implication d'Anive,
oui.
Sa volonté de transmission. Absolument. Et d'avoir une relation profonde avec son enfant.
Et sur, oui, et une relation de confiance. Et là où elle a parfaitement raison, c'est que la relation de confiance qui est absolument indispensable quand les enfants deviennent des adolescents et vont prendre un peu d'autonomie, elle se construit dans l'enfance, dans la petite enfance et dans l'enfance, hein, par le dialogue. Il faut que l'enfant puisse avoir le sentiment, la certitude qu'il peut dire tout ce qu'il veut, à confier ce qu'il veut à son parent, à ses parents.
Votre appréciation, votre regard sur ce que vient de nous dire Anive, professeur Ndiaye, on entend justement cette volonté de maintenir la communication, de rester dans des conversations qui permettent en fait d'aborder toutes les questions sans tabou.
Oui, ce que j'ai retenu vraiment de fondamental, c'est d'abord la présence de la mère et l'écoute. Elle a insisté sur l'écoute, hein, mm-hmm. parce que les enfants ont besoin d'être écoutés. La communication, c'est l'écoute, c'est pas parler, c'est pas parce qu'on parle qu'on communique. Et malheureusement, beaucoup de parents parlent beaucoup plus qu'ils n'écoutent. Et les enfants à cet âge, il faut les écouter et pouvoir discerner ce qu'ils veulent et les accompagner dans cela. Et je pense que c'est un processus qui doit être un processus bidirectionnel, qui doit aboutir à la compréhension mutuelle et la confiance entre les parents et leurs enfants.
Ben, on va remercier beaucoup Anive pour son témoignage. Très bonne journée à Lubumbashi. Et on prend en ligne un dernier auditeur qui est au Gabon, à Libreville, c'est Désiré. Bonjour Désiré.
Bonjour. Bonjour à tout le monde.
On est à votre écoute. On est à votre écoute, allez-y.
Ok, bonjour à tout le monde dans le studio et bonjour aux auditeurs.
Bonjour.
Donc moi j'ai deux filles de 8 et 10 ans et elles rencontrent des difficultés à l'école. D'abord je dois dire que je ne les ai récupérées qu'il y a quelques mois. Elles vivaient avec leur maman et voilà. Mes filles n'aiment pas l'école, elles ne sont pas intéressées. J'ai essayé de les punir, d'essayer de discuter, d'expliquer. D'expliquer les choses, d'expliquer en quoi l'école c'est important, mais c'est sans résultat probant. Donc aujourd'hui, je me demande que faire. Est-ce qu'il faut consulter un psy? Est-ce que consulter un psy pourrait m'aider? Parce que j'ai l'impression que mes enfants ne comprennent pas. Bon, je parle, j'explique les choses, mais le discours, tout ce que je peux faire, c'est dans le vide, on va dire. Je prêche dans le désert, j'ai l'impression.
Vous disiez, vous êtes séparés de leur maman. Vous dites, vous avez utilisé l'expression, je les ai récupérés. Elles avaient vécu combien d'années avec leur maman?
Oui, je vivais avec elles depuis longtemps. Depuis le début.
Depuis toujours. Surtout. Et donc, depuis quelques mois, elles sont avec vous, elles sont venues vivre à votre domicile.
Voilà.
Et elles voient encore leur maman régulièrement?
Oui, régulièrement. On n'a pas de problème.
Béatrice, ce changement, Désiré, ce changement de domicile, il a été occasionné par quoi? Qu'est-ce qui a justifié ce changement de résidence des enfants?
Bon, disons que un jour, leur maman a, comment dire ça, elle a eu un souci. Elle les a laissés pendant plus de 24 heures toutes seules.
D'accord.
Donc, face à cette situation, j'ai dû me résoudre à les récupérer.
Bien sûr. Parce que dans un contexte de séparation comme ça, finalement, assez abrupte, assez rude, sans beaucoup de préparation, on peut imaginer que vos filles investissent peu l'école parce qu'elles sont préoccupées par ailleurs. C'est pas impossible qu'elles soient un peu déprimées par cette situation. C'est vrai que votre idée de consulter, moi je trouve que dans un contexte comme ça, ça serait assez justifié. Peut-être même seulement une fois, mais pour voir si justement l'une ou l'autre ne souffre pas d'une séparation qui aurait été mal comprise.
Bon, effectivement, je dois dire que c'était quand même, c'est jamais évident. Je pense que, parce que pour avoir vécu un peu la situation, l'école en fait.
La ligne se dégrade, on a du mal à vous entendre, Désiré. Je ne sais pas, réessayez de nous dire quelques mots pour voir si ça repasse, parce que là, on a perdu le fil de la conversation. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis bien avec vous.
Ah, c'est bien. Très bien. Alors, redites-nous donc, à l'école, comment... En fait, est-ce qu'elles n'ont pas envie d'aller à l'école ou quand elles vont à l'école, les résultats sont mauvais ou elles sont dissipées?
Il y a une qui n'a pas envie d'aller à l'école. Mmh. Il y a eu, là, c'est la dernière. Elle était capable d'inventer des histoires pour aller aux toilettes et y rester longtemps. Et sa maîtresse m'a dit qu'elle avait très peu de prise sur elle. C'est-à-dire qu'elle lui disait des choses, mais bon, elle n'écoutait pas, elle est ailleurs.
Et vous, ça vous met en colère? Oui. Vous réagissez comment?
Bon, ça me met en colère, mais pas plus que ça. Je ne crie pas, enfin, je suis un peu désabusé. Et sa maman, la maman m'a confirmé ça, que la petite, la dernière, elle, l'école, elle pouvait demander à sa mère, mais maman, pourquoi on peut rester à la maison aujourd'hui? Il y a le problème de taxi, on peut rester à la maison.
Professeur, elle disait quoi, la maman? Elle l'a laissé à la maison ou elle a...
Non, elle l'a laissé pas à la maison, à évidemment. La maison.
Mm-hmm. Voilà. Professeur donc, Ousmane, professeur Ousmane Diaye, qu'est-ce que vous pouvez dire à Désiré?
Oui, je pense que c'est une situation un peu complexe, mm-hmm. qui implique les parents, l'école, parce que l'école est importante, mais c'est surtout au niveau des parents. Je pense que c'est des situations qu'on vit dans des sociétés quand les familles sont, les parents sont séparés et qu'il n'y a plus de connexion entre les parents, les enfants en font le frais. Mm-hmm. Et je pense qu'il est important à Désiré de faire un effort peut-être par rapport à la mère de ses enfants, parce qu'en réalité, c'est cette carence affective profonde qui explique un peu ce comportement et cette répulsion pour l'école qui s'est répandue sur les résultats. Et je pense qu'il est important qu'au niveau de la famille, entre la mère et le père, qu'ils sachent mettre au devant les intérêts des enfants, essayer de voir comment trouver le juste milieu pour leur permettre de s'épanouir.
Et comme Désiré, voilà. comme Désiré l'avait d'ailleurs de lui-même dit, pourquoi ouais. pas consulter une chose qui semble, comme vous le disiez à l'instant, Béatrice Copper-Royer, quelque chose qui pourrait être bénéfique pour toute la famille.
Oui, absolument, parce que la difficulté scolaire, l'évitement scolaire, voire la phobie scolaire, a toujours quand même il y a de la souffrance derrière et je pense qu'il faut élucider ce qui se passe dans la tête de cet enfant qui n'investit pas du tout l'école.
On remercie beaucoup en tout cas Désiré hein, pour son appel de Libreville. Il y a une question que je voudrais vous poser, professeur Ousmane Diaye, parce que certains parents n'osent pas carrément le dire, compte tenu de l'image que cela peut donner de leur mode d'éducation. Mais on a eu un message. Il est très cru, mais je vais le dire quand même. C'est Emmanuel en RDC qui dit, attention, il parle des châtiments corporels. Est-ce qu'il est important d'éduquer un enfant, je cite, en lui donnant des coups de fouet? Professeur Ousmane Diaye, moi, ça me donne des frissons dans le dos quand je lis ce message. Mais pourtant, c'est une réalité. Alors, j'aimerais que vous commentiez cette question. Est-ce que la parole suffit ou doit-on l'associer au fouet? Vous avez bien compris, il y a des guillemets. Votre réponse.
On sait que la violence n'a jamais réglé rien du tout. Je pense qu'avant, le modèle d'éducation qu'on a vécu, c'était pratiquement le fouet, les discriminations. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants, quand même, ont raté leur vie à cause de ça. Je pense que la meilleure des choses, c'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est l'éducation par l'exemple, parce qu'en réalité, les parents, ça sert à favoriser l'acquisition du savoir-être et du savoir-faire par leur comportement. Mais le fouet, à mon avis, n'a jamais rien réglé et ne réglera rien du tout. Et comme vous le dites, moi aussi, ça me donne des frissons, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ce mode d'éducation.
Et on doit dire, donner des châtiments corporels, ce n'est pas une éducation traditionnelle. Ce sont des mauvais traitements.
C'est des mauvais traitements, ce ne sont pas des éducations traditionnelles.
Voilà. Est-ce qu'une question que je vous pose à tous les deux, est-ce que vous diriez aussi par rapport à tout ce qu'on a vu, il a beaucoup été question de séparation, de ces nouveaux modèles familiaux, des parents qui s'interrogent sur comment transmettre aux enfants, mais finalement on se rend compte que tout n'est pas réglé, même y compris au niveau du couple, voire de la séparation du couple. Béatrice Copper-Royer, on demande en fait aux enfants de réagir, on a l'impression des fois un petit peu sans souci, à des situations qui sont très compliquées pour eux.
C'est très compliqué pour des enfants, et alors ça, vraiment, c'est quand même très contemporain, et on voit beaucoup, beaucoup d'enfants en consultation qui sont confrontés à ce genre de choses, d'être face à des parents qui, au-delà de la séparation, n'arrivent pas à s'entendre sur comment éduquer leurs enfants ensemble. Les enfants peuvent se remettre très bien de la séparation de leurs parents, mais encore faut-il qu'il y ait un dialogue qui persiste autour de comment les éduquer. Sinon, ils sont pris dans un conflit de loyauté qui est extrêmement douloureux, et puis ensuite, également, ils profitent de la situation parce que ils jouent la carte de l'un contre l'autre et ils se faufilent dans les failles et finalement, au bout du compte, ça se retourne contre eux parce que c'est des enfants qui arrivent à faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important que les parents entendent qu'au-delà de la séparation, il y a un couple parental qui doit se maintenir suffisamment cohérent.
Avec justement cette question clé, professeur Ousmane Diaye, on arrive à la fin de l'émission, question clé de la répartition des rôles parentaux.
Oui, mais actuellement, je pense que l'évolution de nos sociétés veut que les rôles parentaux soient plus ou moins démocratisés. Parce qu'avant, dans la société traditionnelle, c'était assez hiérarchisé et le pouvoir de décision était confié à l'homme. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a une démocratisation de la prise de décision, où il y a un renforcement du pouvoir de décision de la femme, et ce qui est une très bonne chose. Et je pense que ce qui est important dans un couple, c'est vraiment le dialogue, la discussion, l'ouverture, voilà, qui permet d'avoir une famille harmonieuse. Et je voudrais insister aussi auprès des parents sur la présence, parce qu'aujourd'hui, avec nos sociétés modernes, nous n'avons pas trop de temps pour nos enfants, mais je pense qu'il est important de créer des espaces où on peut vraiment parfois, pour quelques heures, discuter avec les enfants, être présent et vraiment leur permettre de voir comprendre ce que nous faisons, ce qu'est la notion de famille, etc. Et c'est important. Et le savoir-être également, je pense que les enfants copient beaucoup de leurs parents. Et de plus en plus, on voit des parents qui foulent au pied certaines valeurs, certains principes et une certaine éthique. Et je pense que c'est important d'insister sur ces éléments.
Pour mettre en valeur justement tout ce qui peut être de l'ordre du partage et de l'écoute, on l'a bien compris. Merci infiniment à professeur Ousmane Diaye. Je rappelle que vous êtes pédiatre, co-responsable du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant à Dakar. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir donné votre éclairage. Et merci beaucoup à vous d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, Béatrice Copper-Royer. Merci.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Nutrition, alimentation, tout de suite dans Priorité Santé, c'est avec vous Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Avec un avertissement qui est signé de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé a lancé une initiative pour supprimer les acides gras trans de notre alimentation. Alors, commencement, définition. Ces acides gras trans, c'est quoi exactement, Stéphane ?
Alors déjà, en termes macro, j'allais dire, c'est une famille de lipides, donc c'est des graisses. Ça va être un acide gras, comme d'autres, mais qui va avoir une forme avec ces atomes de carbone qui vont être placés de manière trans, qui va lui donner ce nom d'acide gras trans, en fait. Ils sont présents, alors ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'acides gras qui sont très présents dans les aliments naturellement. L'acide gras trans est très peu présent. Il est présent un peu dans les viandes, et puis dans les produits ici de certains ruminants, comme la vache, comme les brebis, les chameaux. Donc on va l'avoir peu. Et en fait, la majorité de ces acides gras trans sont venus d'un procédé industriel d'hydrogénation partielle de certaines huiles végétales ou de certains poissons, mais surtout des huiles végétales. Et donc, ils sont apparus massivement dans notre alimentation au XXe siècle, quand ce processus industriel s'est mis en place et a été mis au point. Et il a été développé, ce processus, en fait, pour diminuer la part des graisses animales, comme le beurre, par exemple, qui était à l'époque très cher, et pour essayer de faire des produits qui se conservaient mieux et qui, du coup, étaient moins coûteux. Donc, on retrouve aujourd'hui ces acides gras trans dans un très grand nombre de produits qui vont utiliser à un moment ce processus d'hydrogénation.
Alors, par exemple, on les retrouve où, ces acides gras trans, dans notre alimentation ?
Alors déjà, on les retrouve massivement dans ce qu'on va appeler les plats cuisinés industriels. On les retrouve aussi dans les frites, dans les pommes de terre surgelées, dans les confiseries, les biscuits, les viennoiseries, on oublie ça, pain au chocolat, croissant, toutes les viennoiseries, les pâtes à tartiner, les pâtisseries, les céréales industrielles et enfin la margarine qui est produite à partir d'huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Alors il est impossible vraiment là de citer tous les aliments qui en contiennent parce que que dès qu'on industrialise, ça devient quand même très très fréquent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se faire une idée en regardant quelque chose sur l'étiquette, c'est-à-dire en regardant si le produit est marqué qu'il est produit à partir d'huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée, ça veut dire qu'il contiendra des acides gras trans. Donc attention à ces types de produits quand on veut consommer des produits transformés.
Alors justement, quels sont les risques pour la santé quand on consomme ces acides gras trans?
Alors déjà, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle recommande que l'apport journalier en acide gras trans soit très faible, moins de 1% de l'apport énergétique total. Donc sur un apport de 2000 kilocalories, ça représente à peu près 2,2 grammes par jour d'acide gras trans. C'est vraiment très faible. Or aujourd'hui, les apports sont beaucoup plus hauts. Alors les acides gras trans, leur impact, ça va être très sur les graisses sanguines, donc ils vont à la fois élever ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, et par contre baisser le bon cholestérol, le HDL cholestérol, et les conséquences du coup, ça va être des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de risques cardiovasculaires, d'événements cardiovasculaires, donc tout le côté attaque, crise cardiaque, etc., etc. Et il faut savoir qu'une simple augmentation des apports d'acides gras trans industriels d'1% augmente très fortement ce risque vasculaire. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anodin, il faut y faire très attention.
Et c'est pour ça que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a initié un programme pour en finir avec ces acides gras trans.
Ah oui, c'est un programme extrêmement ambitieux, on espère qu'il va, on le soutient beaucoup tous dans le domaine de la nutrition, qui s'appelle Replace en anglais, ce qui veut dire remplacer. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est un programme qui est holistique, qui va prendre toutes les parties politiques, consommateurs, etc., pour essayer de les bannir d'ici 2023. C'est pour ça que je disais que c'était très très ambitieux, parce que c'est à très court terme. L'idée, en quelques points, sans rentrer dans le détail, c'est de regarder déjà d'où viennent, où est-ce qu'ils sont présents, parce qu'il y a un vrai manque, les industriels sont pas assez transparents là-dessus, donc d'augmenter ça, de promouvoir après le remplacement de ces acides gras trans par d'autres acides gras de meilleure qualité, d'adopter des lois ou des mesures pour le contrôler si vraiment on n'y arrive pas ou on n'arrive pas à obtenir la transparence des industries, de suivre la teneur et de sensibiliser les décideurs à un meilleur suivi et à l'impact santé de ces produits, et enfin à veiller à la bonne application de toutes ces règles pour espérer qu'en 2023, il y en ait moins ou carrément plus du tout.
Alors avant que ça se passe, qu'est-ce que vous nous recommandez, vous Stéphane Besançon, pour réduire justement cette consommation de mauvais gras?
Alors le tout premier élément, c'est celui qui revient en priorité, c'est réduire au maximum la consommation d'aliments ultra transformés, recommencer à cuisiner à la maison afin de limiter la consommation de ces produits industriellement qui en contiennent. Mais attention, parce que ça suffit pas, ce serait trop simple. On peut en produire aussi à la maison, notamment si on utilise des huiles qui sont pas faites pour la friture, pour faire frire des choses, on va en produire. Si on fait fumer de l'huile d'olive, on va en produire. Donc il faut bien utiliser des huiles de friture quand on fait de la friture, c'est-à-dire des huiles qui sont en capacité de monter en température, c'est marqué sur la bouteille si c'est possible ou pas. Et si on cuisine à l'huile d'olive, de toujours faire attention de pas la surchauffer, jamais, il faut jamais qu'elle fume.
Par exemple, huile de friture, c'est quoi, huile d'arachide?
Oui, par exemple, c'est des huiles qui montent en température et qui vont pas justement fumer. Le bon indicateur en général, c'est que l'huile commence à fumer si elle monte en température, et ça, c'est très mauvais. Et en plus de ces aliments et de ces pratiques, j'allais dire, à la maison sur lesquelles il faut faire attention, après, dans le commerce, de nouveau, il faut être vigilant et choisir des produits qui sont soit mentionnés sans acide gras trans, soit vérifier que la part d'acide et de graisse, j'allais dire, hydrogénée ou partiellement hydrogénée, est très faible dans le produit, ce qui est maintenant mentionné de plus en plus souvent par les industriels.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique et la réalise. C'est Toussaint Maki, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Didier Chérouse aujourd'hui avec nous. Et demain, nous allons parler de la santé et des écrans, l'impact du temps passé devant les smartphones, tablettes ou autres télé. Quelles limites faut-il poser? Quand faut-il s'inquiéter? Surtout pour les plus jeunes. On attend vos messages sur la page Facebook de l'émission. Et puis notre numéro, bien sûr, 33 84 22 75 75. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.